Vous savez, il y a une grande différence entre les trois premiers évangiles qu'on appelle les synoptiques, parce qu'on peut les regarder en parallèle, et puis le quatrième, l'évangile selon saint Jean. En particulier, une différence, c'est qu'il y a beaucoup de miracles dans les synoptiques et peu de miracles chez saint Jean. En revanche, ce que les synoptiques racontent en deux lignes, saint Jean, il lui faut au moins deux pages, un chapitre entier. Comme il y a le chapitre de la multiplication des pains, il y a le chapitre de l'aveugle guéri, de l'aveugle né, chapitre 9, et le chapitre de la résurrection de Lazare que nous écoutons aujourd'hui. Ce qui est propre à saint Jean, qui est témoin oculaire, c'est qu'il aime donner des détails, il raconte les événements, il y a des circonstances, il y a des gens qui écoutent et qui font leurs commentaires. Enfin, c'est très animé, c'est très concret. Et en même temps, c'est très mystique, caractéristique de saint Jean, l'aigle qui voit les choses de haut et de loin et avec profondeur. Et chaque miracle est pour lui un signe. Il n'emploie pas le mot miracle qui souligne le côté extraordinaire ou impressionnant. Pour lui, c'est plutôt des signes, c'est-à-dire des événements qui ont plein de sens, qui ruissellent de sens, et il va déployer ce sens. En particulier, pour la résurrection de Lazare, c'est pour lui l'occasion de dire « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Autrement dit, la résurrection de Lazare annonce celle du Christ, et la résurrection du Christ, elle annonce la nôtre. Mais dans le long récit que nous fait saint Jean de ce grand événement, je voudrais m'arrêter sur un point précis qui me semble essentiel, que je n'avais d'ailleurs pas vu tout de suite il y a quelques années, mais que maintenant ça m'apparaît comme un point tout à fait extraordinaire. C'est vers la fin du récit, Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit. Quand on lit cela ou quand on l'écoute, on ne fait pas spécialement attention à ce que ça a d'extraordinaire, d'impressionnant. Il dit « Lazare, viens dehors !» et le mort sortit. Mais dites-moi, comment un mort peut-il sortir ? Par définition, le mort, il est étendu sur sa banquette de pierre et c'est tout. Il est complètement immobilisé. En plus, on nous dit qu'il est attaché au niveau des pieds et des mains et que qu'il faut le délier pour qu'il puisse aller. Notez qu'il est lié par des bandes et non pas des bandelettes, comme beaucoup de traductions le disent. Attention, il ne faut pas se représenter l'ensevelissement en Israël comme du côté des Égyptiens, avec des bandelettes. Non, c'est un grand drap, comme pour Jésus, c'est un grand drap replié, qui fait donc 4 mètres de long, sur lequel on dépose le corps et on replie le drap par-dessus le corps. Et pour que le drap tienne, il faut l'attacher au niveau des pieds et au niveau de la taille, au niveau des mains qui sont étendues le long du corps. À la tête, ce n'est pas la peine parce que le pli fait que ça tient. D'ailleurs, tous ces détails, on les retrouvera dans la mise au tombeau de Jésus et la rencontre de Jésus ressuscité au matin de Pâques. Donc je repose la question, comment le mort qui est à l'intérieur du tombeau peut-il se retrouver finalement à l'extérieur? Il n'a rien fait pour. La situation avant est claire, c'est un mort couché dans sa tombe. La situation après est claire, c'est un homme au milieu des hommes qui reprend la vie ordinaire. Mais entre les deux, il y a cette espèce de hiatus, de rupture, d'espace vide, de suspense. Et j'ai beau remuer tout ça dans tous les sens, je me heurte toujours à cette espèce de rupture dans le récit. Eh bien, c'est la présence de Dieu, c'est le passage de Dieu. Si Dieu est là, si Dieu agit, c'est vraiment à notre niveau à nous, c'est une présence familière à notre niveau. Et en même temps, il y a nécessairement un ailleurs, une rupture, un espace. Tu verras la gloire de Dieu. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la réflexion que font les deux sœurs de Lazare, d'abord Marthe et ensuite Marie. C'est vrai qu'une guérison, c'est plus facile à concevoir. Il empêche de mourir, mais il n'a pas empêché de mourir, car cette maladie ne conduisait non pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Pour nous, la mort est toujours irrémédiable. Pour nous, quand c'est mort, c'est fini. Mais pour Dieu, ce n'est jamais fini. Il y a toujours un avenir. Pour les apôtres et pour les femmes, le vendredi soir, quand Jésus est mort sur la croix, c'était fini. Il n'y a plus que Marie qui croit et qui espère. En elle, il y a toute l'espérance du monde qui est comme condensée dans son cœur. Mais pour les autres, c'est fini. Comme Jésus arrache Lazare, son ami, à la mort, le Père arrachera son fils bien-aimé à la mort et il sortira du tombeau. Et la résurrection de Jésus annonce, permet, promet notre propre résurrection. Nous aussi, nous avons rendez-vous avec la gloire de Dieu. Mais notre résurrection est précédée et préparée par de multiples petites résurrections dans notre vie quotidienne. Le Christ ressuscité est aussi le Christ ressuscitant. Il a le pouvoir de nous arracher à nos tombeaux. Par exemple, le tombeau du désespoir. Combien de gens, aujourd'hui, sont dans un désespoir total, l'horizon bouché. Ils sont vraiment dans une tombe obscure. Mais la pierre peut rouler et la lumière peut surgir. Il y a ceux qui, au plan personnel, ou familial, ou social, sont dans des situations impossibles, invivables, où tout est fermé, où on a l'impression que tout est insoluble. Eh bien, pourtant, non, un chemin peut s'ouvrir, un avenir peut naître. Et un autre tombeau, c'est le tombeau de notre péché, surtout quand c'est un péché mortel, comme le nom le dit très bien. Parfois, on n'en sort pas. Comment je vais en sortir? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a que la réponse de la foi et le geste du Sauveur qui vient me sortir de ma tombe. Encore un autre exemple. Quand on est enfermé dans l'incroyance ou l'indifférence, comment peut-on trouver la foi? Comment peut-on ouvrir les yeux et découvrir que le Christ est là? C'est encore un geste de salut qui nous est donné. Il y a peut-être des choses qui préparent, des préparations, des conditions qui vont faciliter la naissance de la foi. Mais la naissance de la foi dans un cœur est toujours un miracle. Il y a toujours une rupture, il y a un avant et un après. Et entre les deux, il y a le passage de la grâce. Bien sûr, tout cela ne se passe pas sans nous, sans un minimum d'ouverture, de disponibilité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est en nous un espace ouvert pour que Dieu puisse passer et agir avec puissance. Et c'est dans cet espace que Dieu peut manifester sa gloire et faire du nouveau. Et comme ce dimanche est le troisième scrutin pour les catéchumènes, je vous propose de prier pour eux, de prier avec eux, et demandons au Seigneur que cet exorcisme, cette libération, soit une grâce aussi pour chacun de nous. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions de nous arracher nous-mêmes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin de recevoir sans cesse la vie nouvelle du Christ ressuscité et d'en être les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.